1816. Quatorze jours après avoir levé l'ancre de Rochefort, la frégate L'Alliance de la marine française s'échoua en raison de l'inexpérience de son commandant et de l'imprécision des cartes sur un banc de sable au large de la côte du Sénégal. Les tentatives pour dégager la coque se révélèrent inutiles. Il ne restait plus qu'à abandonner le navire. Les canaux disponibles ne suffisant pas pour accueillir tout l'équipage, on construisit et on mit à flot un radeau long d'une quarantaine de pieds et large de la moitié. On y fit monter 147 hommes, des soldats, des marins, quelques passagers, quatre officiers, un médecin et un ingénieur cartographe. Le plan d'évacuation du navire prévoyait que les quatre canaux disponibles remorquerait le radeau jusqu'au rivage. Cependant, peu de temps après l'abandon de l'épave de l'Alliance, la panique et la confusion s'emparèrent du convoi qui tentait lentement de gagner la côte. Par lâcheté ou par bêtise, on ne put jamais établir la vérité. Les canots perdirent contact avec le radeau. Le câble de remorquage se rompit ou fut coupé par quelqu'un. Les canots continuèrent leur progression vers la terre et le radeau fut abandonné à lui-même. Une demi-heure plus tard à peine, entraîné par les courants, il avait déjà disparu à l'horizon. La première chose, c'est mon nom, Savigny. La première chose, c'est mon nom. Et la seconde, c'est le regard de ceux qui nous ont abandonnés, leurs yeux, à ce moment-là. Ils continuaient à fixer le radeau, incapables de regarder ailleurs, mais il n'y avait rien dans ces regards, absolument rien, ni pitié, ni haine, ni remords, ni peur, rien. Leurs yeux. C'est mon nom, la seconde, ses yeux, et la troisième, une pensée. Je vais mourir. Non, je ne mourrai pas. Si, je vais mourir. Non, je ne mourrai pas. L'eau arrive jusqu'à nos genoux. Le radeau glisse sous la surface de la mer, écrasé par le trop grand poids des hommes. Je vais mourir. L'odeur, odeur de peur. Odeur de mer, odeur de corps, le bois qui grince sous les pieds, les appels, les cordes où s'accrocher, mes vêtements, mes armes, le visage de cet homme. Je vais mourir. Non, je ne mourrai pas. Tout autour, les vagues. Il ne faut pas penser. Elle est où la terre? Qui nous emporte? Qui commande? Le vent, les courants, les prières comme des lamentations. Les prières de colère. Et la mer qui hurle. Et la peur. Obscurité abominable, uniquement des bruits qui sont des hurlements et des lamentations, et des prières et des blasphèmes. Et la mer qui se lève et commence à briser de tous côtés cet enchevêtrement de corps. Il faut se tenir à ce qu'on trouve. Une corde, les planches, le bras de quelqu'un, la nuit entière, dans l'eau, sous l'eau. Si seulement il y avait une lumière, n'importe quoi. Elle est éternelle cette obscurité. Et insupportables sont les gémissements qui accompagnent chaque instant. Mais le temps d'une seconde, je me souviens. Le temps d'une seconde, sous la gifle soudaine d'une vague, une muraille d'eau. Tout à coup, je me souviens. Le silence. Un silence à glacer d'effroi. Le temps d'une seconde. Et moi qui hurle, et hurle. Et hurle. La
première chose c'est mon nom, la seconde ses yeux, la troisième une pensée, la quatrième c'est la nuit qui arrive, et la cinquième ses corps déchirés, coincés entre les planches du radeau, un homme comme un chiffon, accroché au sommet d'un pieu qui lui a défoncé le thorax, et il reste là, oscillant sur la danse de la mer, dans la lumière du jour, découvrant les morts que la mer a tués dans l'obscurité. L'un après l'autre, on les descend de leur gibet pour les rendre à la mer qui déjà les avait pris. La mer de tous côtés. Pas de terre, pas de bateau à l'horizon. Rien. Et c'est dans ce paysage de cadavres et de néants qu'un homme se ferait un passage au milieu des autres et sans un mot se laisse glisser dans l'eau et commence à nager. Il s'en va, tout simplement. Et d'autres le voient et le suivent. Et certains, en vérité, ne nagent même pas. Ils se laissent juste tomber dans la mer, sans faire un geste. Et les voir est même doux. Avant de se donner à la mer, ils s'étreignent, larmes inattendues sur le visage de certains hommes. Puis, ils se laissent tomber dans la mer et respirent à fond l'eau salée, jusque dans leurs poumons, pour que tout brûle. C'est la fin qui grandit à l'intérieur, est mort à la gorge et descend sur les yeux.
5 tonneaux de vin et 1 seul sac de galettes,
dit Coréard, le cartographe.
Nous n'y arriverons pas.
Les hommes se regardent, ils se guettent.
C'est l'instant où l'on décide comment on va lutter, si on lutte,
dit Leroux, premier officier.
Une ration par homme. 2 verres de vin et 1 galette.
Ils se guettent, les hommes. C'est peut-être la lumière ou la mer qui roule paresseusement comme une trêve. Ou les phrases martelées par l'heureux debout sur un tonneau.
Nous nous en sortirons parce que nous avons en nous la haine que nous portons à ceux qui nous ont abandonnés. Et nous reviendrons pour les regarder dans les yeux. Ils ne pourront plus ni dormir, ni vivre, ni échapper à la malédiction que nous serons pour eux. Nous, vivants, et eux, jour après jour et à jamais tués par leurs crimes.
C'est peut-être cette lumière silencieuse ou la mer qui roule paresseusement comme une trêve. Mais en tout cas, les hommes se taisent et le désespoir se fait douceur, ordre et calme. Ils défilent devant nous, l'un après l'autre, leurs mains, nos mains, une ration par tête. Une absurdité quand on y pense. Au cœur de la mer, plus de 100 hommes vaincus, perdus, vaincus, qui s'alignent en bon ordre. Un dessin parfait dans le chaos indistinct du ventre de la mer. Pour survivre, silencieusement, avec une inhumaine patience. Une inhumaine raison.
première chose, c'est mon nom, la seconde, ses yeux, la troisième, une pensée, la quatrième, la nuit qui vient, la cinquième, ses corps déchirés, la sixième et la fin, la septième, l'horreur. L'horreur qui éclate pendant la nuit. L'horreur, la férocité, le sang, la mort, la haine. Une horreur immonde. Ils se sont emparés d'un tonneau et le vin s'est emparé d'eux. À la lumière de la lune, un homme lance de grands coups de hache sur les cordes du radeau. Un officier tente de l'arrêter, mais eux, ils sautent sur lui et le blessent à coups de couteau. Il revient vers nous couvert de sang. Nous saisissons nos sabres et nos fusils. La lumière de la lune disparaît derrière les nuages. C'est difficile à expliquer. C'est un instant qui n'a pas de fin. Et puis, c'est une vague invisible de corps, d'armes, de hurlements qui s'abat sur nous. Le désespoir aveugle qui cherche la mort. Vite, qu'on en finisse. Cherche son ennemi, vite, pour l'entraîner jusqu'en enfer. Et dans la lumière qui décline puis disparaît, je me souviens de ces corps qui se jettent sur nos sabres et du claquement des coups de fusil et le sang qui jaillit des blessures. Les pieds qui glissent sur les têtes coincées entre les planches du radeau. Et ces désespérés qui se traînent, les jambes brisées jusqu'à l'un d'entre nous. Et parce qu'ils n'ont plus d'armes, bah ils nous mordent la jambe et restent accrochés, attendant le coup et la lame qui pour finir vient les fracasser. Je me souviens de des nôtres qui meurent, littéralement mis en pièces par cette bête inhumaine jaillie du néant de la nuit. Et eux qui meurent par dizaines, étouffés, lacérés, et qui se traînent sur le radeau, en regardant comme hypnotisés leur mutilation. Ils invoquent les saints, et ils plongent leurs mains dans les blessures des nôtres, pour en arracher les viscères. Je me souviens. Un homme se jette sur moi. Il serre les mains autour de mon cou, et tout en essayant de m'étrangler, il ne cesse de gémir. Pitié. Un spectacle absurde. Il y a ma vie sous ses doigts. Il y a la sienne à la pointe de mon sabre qui finit par s'enfoncer dans son flanc, puis dans son ventre, puis dans sa gorge, puis dans sa tête qui roule à l'eau, puis dans ce qu'il reste de lui. Une bouillie sanglante enfoncée entre les planches du radeau. Inutile pantin où mon sabre plonge encore une fois. Puis deux, trois, quatre, cinq, six. La première chose, c'est mon nom. La seconde, ses yeux. La troisième, une pensée. La quatrième, c'est la nuit qui vient. La cinquième, ses corps déchirés. La sixième, et la fin. Et la septième, l'horreur. La huitième chose, ce sont les fantasmes de la folie. De la folie qui viennent fleurir sur cette espèce de boucherie. Ah, champ de bataille abominable, lavé par des vagues, et partout des corps, des morceaux de corps, des visages verts ou jaunâtres, du sang coagulé sur des yeux sans pupilles, des blessures béantes, des bouches tailladées comme des cadavres que la terre aurait vomi. Un cataclysme inextricable de morts, de mourants, une chaussée pavée d'agonie encastrée dans le squelette branlant du radeau où les vivants. Les vivants, eh ben les vivants déambulent, volant aux morts de petites choses misérables, mais surtout
s'évadant l'un après l'autre dans la folie, chacun à sa manière, chacun avec les fantômes que tire de son cerveau la faim, la soif, la peur et le désespoir.
Ah, les fantômes.
Tous ceux qui voient la terre, terre ou bien un bateau à l'horizon, ils crient et personne ne les écoute. Un qui écrit une lettre officielle de protestation à l'amirauté pour dire tout son mépris et dénoncer l'infamie et surtout exiger formellement que bla 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 bla.
Parole, prière, vision.
Oh, un essaim de poissons volants, un nuage qui indique la direction du salut, des mères, des frères et des épouses qui apparaissent pour soigner les blessures, donner de l'eau et des caresses. Un homme qui, à perdre haleine, cherche son miroir. Oh, son miroir! Est-ce que quelqu'un a vu son miroir? Rendez-moi mon petit miroir, le mien!
Un autre encore, qui bénit les mourants avec des gémissements et des blasphèmes.
Un autre, cet homme-là, cet homme qui parle à la mer, à voix basse, assis au bord du radeau et lui parle comme s'il voulait la séduire.
Et il l'entend répondre. La mer répond.
Certains finissent même par écouter ses réponses méchantes et convaincus enfin se laissent glisser dans l'eau. Ils s'en remettent à la grande amie qui les avale et les emporte au loin, tandis que sur le radeau continue de courir en long et en large Léon, oh le petit Léon, Léon le mousse, Léon qui a 12 ans et que la folie a pris. La terreur s'est emparée de lui et il court en long et en large d'un bout à l'autre du radeau sans jamais cesser de lancer le même cri. Ah, maman, 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 maman. Léon regarde doux et a la peau de velours. Il court comme un fou, petit oiseau dans une cage, jusqu'à se tuer. Son cœur éclate ou Dieu sait quoi à l'intérieur de lui, Dieu sait quoi, pour qu'il soit terrassé comme ça, d'un seul coup, avec les yeux qui roulent. Dans sa poitrine, une convulsion qui le secoue tout entier. Et pour finir, le rejette immobile sur le radeau, où les bras de Gilbert le recueillent. Gilbert qui l'aimait et le serre. Gilbert qui l'aimait et qui pleure maintenant et l'embrasse, inconsolable. Étrange chose à voir là, là, en plein milieu de l'enfer. Le visage de ce vieux qui se penche sur les lèvres de cet enfant. Étrange chose à voir, ces baisers. Comment pourrais-je les oublier, moi qui les ai vus, ces baisers? Moi sans fantôme, moi qui ai la mort sur moi, sans même la grâce d'un fantôme ou d'une folie douce. Moi qui ai cessé de compter les jours, mais qui sais pourtant que chaque nuit à nouveau, la bête reviendra. Elle reviendra forcément, la bête de l'horreur, la boucherie nocturne, cette guerre que nous nous livrons, cette mort que nous répandons autour de nous pour ne pas mourir, nous. La première chose, c'est mon nom. La seconde, ses yeux. La troisième, une pensée. La quatrième, c'est la nuit qui vient. La cinquième, c'est corps déchiré. La sixième est la fin. La septième, l'horreur. La huitième, les fantasmes de la folie. Et la neuvième, chair aberrante. Chair qui sèche sur les haubans des voiles. Chair sanguinolente. Chair. Chair humaine. Dans mes mains, sous mes dents, la chair de ces hommes que j'ai vus, qui étaient là, chair d'hommes vivants, puis morts, tués, déchiquetés, emportés par la folie, la chair de ces bras et de ces jambes que j'ai vus combattre, chair détachée des os, une chair qui avait un nom et qu'à présent je dévore, fou de faim. Des jours et des jours à mastiquer le cuir de nos ceintures et des morceaux de tissu. Il n'y a plus rien. Rien. Sur ce radeau atroce. Rien que de l'eau de mer et de la pisse refroidie dans des gobelets de fer blanc. Les morceaux d'étain
gardée sous la langue pour ne pas devenir fou de soif. Et la merde qu'on n'arrive pas à avaler. Et les cordes trempées de sang et de sel, comme la seule nourriture qui ait encore le goût de la vie. Jusqu'à ce que quelqu'un, aveuglé par la faim, se penche sur le cadavre de son ami. Rageusement du dégoût pour arracher à la mort une dernière ouverture sur la vie. Chemin abominable que pourtant l'un après l'autre nous prenons, tous égaux désormais, à nous transformer en bêtes, en chacal, muets enfin, chacun avec son lambeau de chair, l'âpre saveur sous les dents, les mains barbouillées de sang et au ventre. Cette souffrance hallucinante. L'odeur, la puanteur, la peau, la chair qui se défait, la chair qui s'effiloche, qui coule en eau et en sérum. Ces corps ouverts, comme des hurlements. Table dressée pour les animaux que nous sommes.
C'est la fin de tout, c'est la capitulation exécrable, c'est la défaite obscène, la catastrophe blasphématoire. Et c'est à ce moment-là que moi, que je lève les yeux, mes yeux. C'est alors que je lève les yeux et que je la vois. Je lève les yeux et je la vois. La mer. Pour la première fois, après des jours et des jours, je la vois vraiment. Et j'entends sa voix immense. Je respire la violence de son odeur. Et dessous, la danse inépuisable, la vague infinie. Tout disparaît, il n'y a plus qu'elle, devant moi, en moi, comme une révélation. Se dilue la couche de souffrance et de peur qui a recouvert mon âme. Se défait le tissu des infamies, des cruautés et des horreurs qui se sont emparées de mes yeux. S'efface même l'ombre de la mort qui dévorait mon cerveau. Et dans la brusque lumière d'une clarté imprévisible, je vois enfin et j'entends et je comprends. La mer, elle semblait une spectatrice, silencieuse et même complice. Elle semblait un cadre, un décor, un arrière-plan. Et maintenant je la regarde et je comprends. La La mer était tout. Elle a été tout dès le premier instant, tout. Je la vois danser autour de moi, somptueuse dans sa lumière de glace. Monstre infini et merveilleux. Elle était là, dans les mains qui tuaient, dans les morts qui mouraient. Elle était là dans la soif et dans la faim, dans l'agonie aussi elle était là, dans la lâcheté et dans la folie. Elle était la haine et le désespoir. Elle était la pitié et le renoncement. Elle est ce sang et cette chair. Elle est cette horreur et cette splendeur. Il n'y a pas de radeau, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de parole, de sentiment, de geste, rien. Il n'y a pas de coupable, ni d'innocent, de condamné, ni de sauvé. Il y a seulement la mer. Tout n'est plus que mer. Et nous, abandonnés de la terre, nous sommes devenus le ventre de la mer. Et le ventre de la mer, c'est nous. Et en nous, elle vit et elle respire. Et moi, je la regarde, qui danse dans son manteau étincelant, pour la joie de ses yeux à elle, invisible. Et je sais enfin que ce n'est la défaite d'aucun homme, mais seulement le triomphe de la mer et sa gloire, tout ceci. Et alors, et alors, et alors, Hosanna, 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 Hosanna pour elle, la mer immense, océan mer, plus puissante que tous les puissants, plus merveilleuse que toutes les merveilles. Hosanna et gloire à elle, maîtresse et esclave, victime et bourreau. Hosanna, la terre s'incline sur son passage et de ses lèvres parfumées lèche les bords de son manteau. Sainte, trois fois sainte, trois fois sainte, trois fois sainte, trois fois sainte, berceau de tous les nouveau-nés et ventre de toutes les morts. Hosanna et gloire à elle, le havre de tous les destins, le grand cœur qui bat, le commencement et la fin, l'horizon et la source, la souveraine du nez. Du temps et maîtresse des nuits, la seule, l'unique Hosanna, car l'horizon lui appartient, est vertigineux et son sein profond et insondable. Et gloire, 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 gloire au plus haut des cieux, car il n'est pas de ciel qui en elle ne se reflète et ne se perde. Il n'est pas de terre qui elle ne se soumette. Elle, l'invincible, elle, la sœur chérie de la lune, la mer attentionnée des douces marées, et que devant elle s'inclinent tous les hommes et qu'ils lancent vers elle leur chant d'Hosanna. Elle est en eux et en eux grandit. Ils vivent et meurent en elle. Elle est pour eux le secret, le but et la vérité, la condamnation, le salut et la route unique vers l'éternité. Il en est ainsi, elle continuera d'en être ainsi jusqu'à la fin des jours. Qui sera la fin de la mer si la mer doit finir? Elle, la sainte, la seule, l'unique, l'océan mer. Et que pour elle on chante Hosanna et gloire jusqu'à la fin des siècles. Amen, 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 amen. Ne me tue pas! sixième chose, c'est un homme qui me regarde et ne me tue pas.
Il s'appelle Thomas. De tous, il était le plus fort, parce qu'il était malin. Nous n'avons pas réussi à le tuer. L'heureux a essayé la première nuit, Coréard a essayé. Mais il a sept vies, cet homme. Autour de lui, ils sont tous morts, tous ses compagnons. Nous sommes restés 15 sur le radeau, dont lui. Il s'est tenu longtemps dans le coin le plus éloigné de nous, puis il a commencé à ramper lentement et à s'approcher. Chaque mouvement est un impossible effort. Je le sais, moi qui suis immobile ici depuis la dernière nuit et qui ai décidé d'y mourir. Chaque parole est un effort abominable et chaque mouvement une insurmontable fatigue. Mais lui, il continue de s'approcher et il a un couteau à la ceinture. C'est moi qu'il veut, je le sais. J'aimerais qu'il fasse quelque chose, cet homme. Mais il continue à me regarder, c'est tout. Il n'aurait qu'un pas à faire, il serait sur moi. Je n'ai plus d'armes. Lui, il a un couteau. Je n'ai plus de force. Lui, il a dans les yeux le calme et la force d'un animal en chasse. Incroyable qu'il soit encore capable de haine, ici, dans ce cimetière à la dérive. Où il n'y a plus que la mort maintenant. Incroyable qu'il soit capable de se souvenir. Si seulement j'arrivais à parler, si seulement il y avait encore un peu de vie en moi, je lui dirais que j'étais obligée de faire ça. Qu'il n'y a pas de pitié dans cet enfer, qu'il n'y a pas de faute, qu'il n'y a ni lui, ni moi, mais seulement la mer, l'océan mer. Je lui dirais de cesser de me regarder et de me tuer. S'il te plaît. Tue-moi, Thomas, ou laisse-moi mourir en paix. Tu es vengé maintenant. Va-t'en, tourne ton regard vers la mer. Moi, je ne suis plus rien. Elle ne m'appartient plus, mon âme. Elle ne m'appartient plus, ma vie. Ne me vole pas, avec ces yeux-là, ma mort. La mer danse. Mais doucement. Va-t-il me regarder mourir? Il y a un grand silence sur le radeau. On entend uniquement, très fort, le bruit de la mer. La première chose, c'est mon nom. La seconde, ses yeux. La troisième, une pensée. La quatrième, la nuit qui vient. La cinquième, ses corps déchirés. La sixième, c'est la fin. La septième, l'horreur. La huitième, les fantasmes de la folie. La neuvième est la chair. Et la dixième, c'est un homme qui me regarde et ne me tue pas. La dernière, c'est une voile. Blanche à l'horizon.